Bonsoir. Le M23 assuré de ne pas être attaqué par les forces armées congolaises en cas de retrait des zones qu'il occupe illégalement. Ce mouvement rebelle a eu cette assurance au cours d'une réunion tenue lundi 12 décembre dernier avec le commandant de la force de l'EAC, les officiers du mécanisme conjoint de vérification élargie, ceux du mécanisme de vérification ad hoc ainsi que ceux des FRDC à Kibumba, territoire de Nyiragongo, au nord Kivu. Cette rencontre a été, selon Guillaume Njike, porte-parole des FRDC au nord Kivu, initiée sur demande du M23. De son côté, tout en saluant les efforts des dirigeants régionaux dans la lutte d'éradication des conflits armés dans l'est de la RDC, le M23 a, dans un communiqué rendu public mardi 12 décembre, affirmé que cette rencontre s'est déroulée dans un climat très apaisé et attend une nouvelle rencontre. Il réitère son souhait d'un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Que pensez-vous de cette évolution dans la résolution de la crise dans l'est de la RDC? Nous en parlons ce soir avec le professeur Sobera Genunga. Il est professeur à l'université de Kisangani et à l'université catholique du Congo, spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Il est aussi chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo, Jacques en sigle. Professeur Sobera Genunga, bonsoir.
Bonsoir.
Augustin Mouessi, professeur de sciences politiques à l'université de Goma et université catholique Graben de Butembo. Professeur Mouessi, bonsoir. Je crois qu'on a perdu le professeur Mouessi. La réalisation, on va essayer de le rappeler. Et Timothée Chaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Timothée Chaombo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiookapi.net.
Province du Nord Kivu, le commandant de la force de l'EAC, les officiers du mécanisme conjoint de vérification élargie, ceux du mécanisme de vérification ad hoc, le M23, et les hauts responsables des FRDC se sont rencontrés lundi à Kibumba, à une trentaine de kilomètres au nord de Goma, en territoire de Nyiragongo. D'après le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, c'est à la demande du M23 qui a tenu à rencontrer les autorités de l'EAC pour s'assurer qu'ils ne seront pas attaqués par l'armée congolaise au cas où il s'est retiré des zones qu'ils occupent actuellement. Dans une déclaration accordée hier soir à Radio Okapi, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume a expliqué le contexte de cette rencontre. On l'écoute.
Les M23 ont tenu à rencontrer les autorités de l'East African Community Regional Force pour leur faire part de la crainte dont ils avaient, pour la crainte selon laquelle s'ils se retiraient des zones qu'ils occupent actuellement en exécution de la volonté des chefs d'État au mini-sommet de Luanda, que les forces armées de la République démocratique du Congo les attaqueraient. Raison pour laquelle ils ont tenu à rencontrer les autorités de l'East African Community Regional Force pour les rassurer, les autorités de l'armée congolaise, je vais parler ici du commandant 3e zone de défense et du sous-chef d'état-major en charge des opérations, ont participé, n'est-ce pas, à cette réunion et il était question de rassurer au M23 que s'ils mettent en exécution la volonté des chefs d'état tels que manifestés au mini-sommet de Nairobi, qu'il n'y aurait pas des attaques de la part des forces armées de la République démocratique du Congo.
Professeur Sobera Genunga, professeur à l'université de Kisangani et université catholique du Congo, vous êtes spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire, mais aussi chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Que pensez-vous, professeur, de cette évolution de la crise dans l'est de la RDC? Peut-on parler d'abord d'évolution, selon vous?
Parler de l'évolution, je ne pense pas qu'il y ait eu une évolution. Vous savez que c'est depuis le 23 novembre dernier que le chef d'État membre de l'EAC avait sommé le M23 de cesser avec les attaques contre les FRDC et la MONUSCO et de se retirer complètement des zones qu'il occupe actuellement pour se replier sur ses positions initiale. Et je pense que c'est dans cette dynamique que il y a eu dernièrement la rencontre à Kibumba. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important ici de souligner, c'est le fait que en toutes les réunions des chefs d'État membres de l'EAC et les résolutions qui s'en sont sorties ont été votées en touche par le M23 et ce dernier tient plutôt mordicus à dialoguer avec le gouvernement congolais. Et je pense que si lors de la dernière rencontre, le M23 est une fois de plus revenu sur le souhait qu'il a toujours émis de dialoguer directement avec le gouvernement de Kinshasa, et je pense que cela ne devrait pas en surprendre. Alors, comment interpréter cette évolution? Premièrement, le contexte que je pourrais faire, il s'agirait par contre du paradoxe du côté du gouvernement congolais qui a considéré le M23 comme un groupe terroriste et qui a exclu, n'est-ce pas, toute possibilité de dialogue avec le M23. Et je pense que l'on se rappellera que même l'Assemblée nationale a voté une recommandation et dans laquelle elle s'est opposée à toute idée de dialogue avec le M23. Et là, à mon humble avis, ça ressemble vraisemblablement à une contradiction. Mais ce qui pourrait paraître acceptable si l'EAC s'inscrivait dans la dynamique notamment de notifier au M23 les résolutions de Luanda, là ça pourrait se comprendre. Mais aujourd'hui, une autre question que l'on doit se poser, c'est celle de savoir est-ce que cette démarche va aboutir.
Selon nos sources, professeur Chobehage Nunga, le M23 a posé quelques préalables qui, une fois satisfaits, permettra ce mouvement de se retirer des localités de la RDC. C'est entre autres, le gouvernement devrait répondre à la question, les rebelles vont se retirer pour aller où? Le gouvernement congolais doit d'abord définir les critères des lieux identifiés pour les M23 avec engagement écrit qu'il ne va pas les attaquer. Les M23 acceptent de se retirer à la seule condition que les groupes armés qui appuient les FRDC se retirent eux aussi avec des indications précises de leur lieu de cantonnement. On sait que le gouvernement a traité les M23 de mouvements terroristes. Là, maintenant, c'est ce mouvement qui pose des conditions avant tout retrait. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais se retrouve un peu en position de faiblesse?
Alors, je pourrais par contre dire que la question devient de plus en plus complexe, mais je le soulignais tantôt à la prise de parole. Je disais que le gouvernement congolais est en train de tomber dans son propre piège parce que il avait traité le mouvement du M23 d'un groupe terroriste. Et je pense que les gouvernements devraient en tirer les conséquences. Et on l'a vu à Nairobi, le gouvernement congolais a exclu le M23 de la table de négociations, et la seule option qui pourrait s'apprêter serait évidemment l'utilisation de moyens coercitifs contre le M23, ce qui n'a pas été chose faite. Et à mon humble avis, je pense que ces conditions que le M23 ne cesse de multiplier montrent en suffisance que le M23 n'est pas prêt pour l'instant de se retirer, n'est-ce pas, à des positions qui l'occupent actuellement. Et à la question de savoir où est-ce que le M23 en devrait se cantonner aussitôt en retirer, il appartiendrait évidemment à l'EAC et aussi au gouvernement congolais de répondre à cette question. Mais là aussi, je crois qu'on n'aurait pas résolu le problème, même si on indiquait l'endroit où le M23 devrait se cantonner aussitôt en retirer, on n'aurait pas résolu le problème parce que le M23 pourrait toujours en soutenant le gouvernement congolais. Mais ce qui est plus important actuellement, il faut trouver une solution définitive qui consisterait à mettre un terme, n'est-ce pas, à l'activisme de M23. Mais aussi longtemps qu'on n'en serait pas arrivé là, je pense que les menaces qui sont faites peser le M23 sur la République démocratique du Congo ne serait toujours pas écartée.
Timothée Chaombo Soucha, vous êtes chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Comment vous analysez cette rencontre entre notamment les FRDC, le M23, le commandement de l'EAC et les officiers du mécanisme conjoint de vérification élargie?
Oui, j'aimerais saluer mes collaborateurs, les éminents professeurs, mais avec votre autorisation, présenter toutes mes condoléances à l'ensemble des familles congolaises éplorées lors des dernières pluies. Il faut qu'avec ce réchauffement climatique, avoir des vraies politiques d'assainissement et d'environnement qu'il faut. Les contribuables congolais mettent beaucoup d'argent dans la ville de Kinshasa et sous toute l'étendue du territoire national, mais il n'y a aucune politique de voirie, drainage, c'est révoltant. Je reviens à votre question. C'est comme le professeur l'a dit, c'est vraiment un tâtonnement, c'est une contradiction, mais également des inquiétudes parce que la menace restera. Et il faut dire tout simplement, la première des choses, c'est que vous m'avez reçu ici le 2 décembre dernier. Moi, j'ai dit que le gouvernement s'est tiré une balle au pied en qualifiant le mouvement M23 de mouvement terroriste. Je vous ai dit que par toutes les approches pédagogiques, on ne peut pas classer le M23 comme un mouvement terroriste. Tout simplement parce que ce mouvement a un numéro vert, on peut toujours le joindre. Ils occupent un territoire, ils ont un commandement militaire, une administration politique, ils gèrent un territoire, ils ont des revendications politiques, ils ont été même partis politiques, à un moment donné alliés au FCC, Joseph Kabila. C'est un groupe, un mouvement politico-militaire. On ne peut pas aller parler, envoyer une délégation militaire, parler avec les FNALO. Est-ce que vous avez vu les Américains parler avec une délégation d'Al-Qaïda ou délégation de l'État islamique? On tâtonne, les Congolais sont très superficiels et légers dans le traitement des dossiers de l'État, les dossiers les plus sensibles. Et aujourd'hui, moi je suis très inquiet et puis très révolté par l'évolution de la situation. Je dirais tout simplement que le M23 a ramené le gouvernement congolais sur la table des négociations. Rappelez-vous, lorsque vous m'avez invité au mois d'avril, au tout début du dialogue à Nairobi, le gouvernement congolais a refusé le terme dialogue. A dit non, on va les écouter, etc. On exclut toute possibilité de négociation avec. Et finalement, le cadre juridique a été défini, un facilitateur a été désigné, les termes de référence ont été élaborés, et finalement, le dialogue a eu lieu avec des recommandations, alors que même le gouvernement congolais disait ne pas du tout écouter les recommandations, il faut la force, reddition, point à la ligne. Première des choses, c'est le M23 qui ramène le gouvernement congolais à la table des négociations. Ça s'appelle les débuts des négociations. Alors, deuxièmement, parce que je parle des inquiétudes et même des grandes contradictions, lorsqu'on demande au M23 de se retirer des zones qu'il occupe illégalement, c'est un mouvement terroriste, c'est un groupe négatif. Quel territoire légal occupe le M23? C'est la base arrière au Rwanda ou en Ouganda? Là, c'est les bases arrières, c'est les territoires étrangers. Toute portion de territoire national occupée par un groupe armé doit être retrouvée entre les mains sous contrôle de l'autorité de l'État. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de dessiner ici une situation où on dit, bon, retirez-vous là où vous occupiez avant parce que c'est légal? Donc, nous pourrions arriver le lendemain à une situation d'un couloir entre les FARDC et les positions du M23. Donc c'est une contradiction et c'est le gouvernement qui doit, comme le professeur l'a dit, tirer toutes les conséquences. Un deuxième élément qu'il faut souligner, c'est que les commandements de pays des États de l'Afrique de l'Est étaient venus pour mettre un terme par la force aux groupes armés, notamment le M23. Vous voyez le rétropédalage, pas le rétropédalage, mais j'ai comme l'impression que la mission a changé. Ces groupes, je veux dire, ces commandements deviennent facilitateurs entre le FARDC et le M23. Et le M23, c'est le M23 qui initie les contacts avec le gouvernement congolais. Ça, c'est une évolution qui est à la fois négative pour le gouvernement congolais qui a traité avec autant de légèreté cette question, mais une évolution positive parce que de mon point de vue, le mouvement M23, c'est un mouvement politico-militaire, mais effectivement soutenu par le Rwanda. Et que pour moi, au départ, je l'ai toujours dit ici, qu'il y a trois options. L'option diplomatique à travers les institutions régionales africaines et internationales, mais aussi une option politique, qui est une option de les approcher, écouter, dialoguer si nécessaire, et l'option militaire, les écraser. Donc nous sommes ici dans les pré-négociations entre le M23 et le gouvernement congolais. C'est ce qu'il faut retenir de cette évolution de la situation.
Certains Congolais qui ont réagi sur nos différentes plateformes estiment que le gouvernement ne devrait pas négocier avec le M23. Il faudrait plutôt utiliser la force. Ces gens, ils ont commis beaucoup de crimes en RDC.
C'était au départ la position même du gouvernement congolais de ne pas du tout négocier avec le M23 parce qu'effectivement qu'il y a des crimes qui sont commis. Moi je suis pas le porte-parole du M23, je le serai jamais. Je reste dans mon domaine scientifique, ça me suffit. Mais le problème en matière de crise, c'est l'épineux problème des rapports de force. Oui, nous ne pouvons plus négocier. Oui, nous ne pouvons pas les intégrer au sein des FARDC, les écouter. Mais en même temps, les FARDC est en train d'enregistrer les échecs sur le terrain. Le M23 occupe le terrain, certains territoires, administre à la place de l'État congolais certains territoires, au point même d'empiéter l'organisation des élections dans certains territoires dont ils occupent. Donc le problème du rapport de force, si aujourd'hui l'État congolais vient écouter le FARDC, commencer les pré-dialogues avec le FARDC, c'est parce qu'on se trouve en position de faiblesse, effectivement, du fait d'avoir fait une mauvaise qualification des faits. Lorsqu'un médecin pose un mauvais diagnostic, le remède qu'il va administrer ne va pas résoudre le problème. Donc, nous sommes devant un problème qu'il faut résoudre définitivement, l'activisme de groupes armés en RDC. Je rappelle que l'enjeu international aujourd'hui, c'est la guerre liée à la transition énergétique, le contrôle des territoires où se trouvent les ressources. Le M23 se trouve dans l'espace de territoire où se trouvent énormément de minerais, et que donc aujourd'hui les dirigeants congolais sont appelés à assumer leurs responsabilités afin qu'une fois pour toutes, ils viennent de négociations avec le sommet de Washington, où on attend effectivement que la RDC joue un rôle, au lieu de passer par le Rwanda pour se minérer, c'est la RDC qu'on attend au rendez-vous de ces grands marchés mondiaux de la transition énergétique. Mais si nous traitons les questions d'État avec autant de légèreté, avec tâtonnement, on ne nous prendra pas au sérieux. Voilà pourquoi Uhuru Kenyatta, qui a été désigné facilitateur à Nairobi, n'a pas du tout suivi le gouvernement congolais qui ne voulait pas des revendications du groupe armé. À la fin, il y a eu un communiqué signé par Uhuru Kenyatta et tout les protagonistes, que le gouvernement congolais a une part de responsabilité, les groupes armés ont une part de responsabilité. Et c'est ainsi que vous voyez, au lieu que ces forces qui sont venues pour mettre fin à ces groupes armés n'utilisent pas leur agenda du départ, deviennent des facilitateurs entre les FARDC et le M23, qui est la principale menace. La principale menace, je termine par là, c'est que pour Paul Kagame, c'est un problème congolo-congolais lié au fait qu'il n'y a pas intégration d'un certain nombre de communautés congolaises. Donc il faut que nous puissions nous assumer. Mais en même temps, dire aussi que l'ambivalence même du président rwandais, qui parle de la menace aux frontières, Madame Moshiki Wabula dit la fois dernière de FDLR, il faut que l'État congolais puisse, déjà à Washington comme ailleurs dans les tribunes des Nations Unies ailleurs, demander qu'il y ait un vrai dialogue au Rwanda, parce que les mêmes revendications du M23 sont les revendications de Kigali.
Merci.
Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait un dialogue au Rwanda pour qu'il n'y ait plus de prétexte afin de résoudre ce problème définitivement, madame.
Professeur Augustin Boissy, bonsoir. On a des sérieux problèmes avec la ligne du professeur Augustin Mouessi que nous n'arrivons pas à joindre. On va retenter une dernière fois. On espère que ça va marcher. Professeur Chobert Aguenonga, certaines sources parlent d'une fuite en avant du M23 après la publication de l'enquête préliminaire sur les massacres de Kishishe. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, exactement. Je pense que je voudrais un peu relativiser la thèse de mon co-débatteur. Évidemment, le dernier massacre de Kishishe qui on pourrait évidemment conforter le gouvernement dans tous les qualificatifs imputés au 1-23, parce que c'était un massacre d'une ampleur inédite. Selon le bilan qui a été présenté, des centaines de civils ont été massacrés. Et c'est constitutif, évidemment, de crimes de guerre pour lesquels ces auteurs ne doivent pas rester impunis. Mais vraisemblablement, selon les informations que nous avons pu obtenir, il ne s'agissait ni plus ni moins d'une expédition punitive, dans la mesure où dans cette région, le M23 serait tombé dans les guet-apens d'un groupe armé local, et en représailles, le M23 ça n'est qu'à prix, évidemment, aux civils, mais là, ça pourrait conforter le gouvernement congolais pour montrer à la face du monde, mais écoutez, on a affaire à un groupe qui est en train de massacrer les civils. Son mode operandi n'est pas différent de celui d'un groupe terroriste. Et justement, il s'agit d'une fuite en avant du M23, et c'est totalement inacceptable, c'est totalement irresponsable que le M23 puisse réclamer le dialogue avec le gouvernement congolais, et en même temps, il massacre des civils innocents, et pour cela je pense que le gouvernement congolais ne devrait pas seulement se contenter du dernier train de sanctions que l'Union européenne a imposé contre un certain nombre d'individus. Le gouvernement congolais lui-même devrait entreprendre des démarches judiciaires devant déboucher sur des sanctions pénales contre les responsables du M23 à tous les niveaux, aussi bien au niveau national qu'au niveau des dialogues.
Professeur, vous allez rester en ligne parce qu'on va ouvrir notre standard pour prendre ces nombreux auditeurs qui nous appellent. On va se rendre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour écouter cet auditeur qui appelle.
Kwao Sapushengi, ville de Lubumbashi. Vous voyez, avec ça, si le gouvernement continue avec cette allié, nous risquerons de tomber dans ce piège-là de l'ennemi pour dialoguer avec eux. Et nous connaissons tous que, avec l'infiltration et tout, une fois que le gouvernement arrive à dialoguer avec les M23, on finira par les mixages, les brassages et tout. Alors le gouvernement devrait arrêter, imposer la paix jusqu'à ce qu'il doit combattre les M23 et que de ne pas continuer avec ce genre de dialogue, de rencontres avec l'ennemi. Ça, c'est comme si nous retournons encore ce qui s'est passé avant.
Professeur, commentaire.
Alors, ce qu'il faudrait dire actuellement, c'est que, évidemment, quand on fait la guerre, il faut toujours mettre en tête que le dialogue n'est pas du tout exclu. Hein. Ça s'exclut dans l'approche talk and fight, hein. Ce n'est pas exclu. Or, dans le cas sous examen, l'on s'aperçoit que le dialogue qui devrait se tenir, on se rappelle très bien que le M23 était invité au dialogue de Nairobi, mais il était exclu de la salle de négociation pour avoir repris les armes pendant que les représentants des différents groupes armés étaient conviés au dialogue. Mais sur le terrain, malheureusement, le spectacle est désolant, c'est que le gouvernement congolais n'a pas réussi évidemment à utiliser de manière efficace la force pour étouffer le M23 dans l'œuf, pour arrêter la progression du M23. C'est tout ça la problématique, c'est-à-dire le chef du gouvernement congolais se révèle à la fois sur le front militaire et à la fois sur le front diplomatique. Mais par ailleurs, je pense que c'est là où peut-être la faiblesse aussi du gouvernement apparaît des points de vue diplomatique. Il est clairement connu que le M23, c'est tout simplement un cheval de Troie du Rwanda, et du coup, le gouvernement congolais devrait plutôt obtenir des pressions diplomatiques sur le plan international, sur le M23, sur le Rwanda, on voulait dire, et pourquoi pas des sanctions pour que le Rwanda puisse retirer tous ses soutiens au M23. Mais en même temps, il y a l'autre pays qu'on semble ignorer, c'est l'Ouganda, qui est aussi derrière le M23. Je rappelle que au mois de juin dernier, lorsque le M23 a pris le contrôle de Bunagana, on a constaté que le M23 est rentré par le territoire ougandais, parce que Bunagana ne partage aucune frontière avec le Rwanda, mais plutôt avec l'Ouganda. Mais là aussi, on a tendance à ignorer le rôle négatif que l'Ouganda, qui est pourtant partenaire de la RDC dans la lutte contre le M23, est en train de jouer actuellement dans cette dynamique à l'est du pays.
La réalisation me signale que le prof Mouessi est en ligne. Professeur, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelle lecture, professeur, vous faites de cette rencontre entre notamment les FRDC, le M23 et les officiers du mécanisme conjoint de vérification élargie?
Pour ma part, il s'agit d'une initiative qui vise à acter les bénéfices des différents sommets de Luanda, mais également des consultations de Nairobi, dans un nouvel environnement créé par l'arrivée, le déploiement de la force régionale, qui semble privilégier en fait le processus politique au détriment de la force, de l'usage de la force contre l'équipe du M23. Et donc, en ce qui concerne justement les consultations de Nairobi, lorsque on a clôturé Nairobi 3, les facilitateurs avaient promis continuer à prendre langue avec différents belligérants, même avec ceux-là qui n'ont pas été à Nairobi. Et même Luanda aussi avait demandé en fait à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, mais la question était de savoir comment ce cessez-le-feu devait être effectivement traduit en acte, devait être concrétisé. Et donc c'est à la suite justement de tout, c'est par ces différents facteurs que j'essaie de comprendre ce qui se passe justement, ce qui s'est passé à Kibumba. Évidemment, où on est dans ce contexte aussi où les gouvernements privilégient en même temps une approche concessive et en même temps une approche aussi compétitive, parce que le gouvernement continue à demander à ce que les rebelles du M23 se retirent, et récemment le président de la République, dans l'approche compétitive, a même dit qu'il a même remercié le Parlement parce qu'il avait pris une recommandation qui interdisait effectivement d'introduire en fait les militaires du M23, en fait les soldats du M23, les combattants du M23 dans les FARDC. Et donc voilà un peu, ce sont ces différents éléments qui expliquent ce qui s'est passé justement à Kibumba, dans une situation où pratiquement la RDC semble jouer finalement la politique des mains liées des côtés par l'opinion, qui ne veut pas voir le gouvernement congolais négocier avec le M23, mais lié aussi de l'autre côté, parce que finalement, la logique de la communauté sous-régionale et de tous les autres partenaires engagés dans le processus de paix, de la résolution de cette crise, c'est une logique apparemment qui privilégie quelque part la négociation. Et c'est là où, justement, je suis tenté de dire que le gouvernement, pour éviter des actions un peu des tâtonnements, à mon avis, devrait clairement clarifier, en fait, son plan de gestion de cette crise et essayer, à l'intérieur de ces plans-là, de dire clairement quelles sont les activités devant être menées, que de participer parfois à des activités qui semble montrer que effectivement il est prêt à négocier, alors que dans les discours c'est vraiment un discours qui récuse en fait toute négociation.
Professeur Mouessi, peut-on parler d'évolution positive dans la résolution de la crise dans l'est de la RDC après cette rencontre entre les FRDC, le M23, le commandement de l'EAC et puis les officiers du mécanisme conjoint des vérifications élargies?
De ma part, je pense qu'il est très tôt de dire qu'il y a une évolution positive, mais ce qui est vrai, c'est que cette rencontre signifie quelque chose, signifie en même temps que ce n'est pas exclu qu'un jour le gouvernement un dialogue peut-être ou parler aux rebelles du M23, moyennant évidemment certaines conditions. C'est ce que ça veut dire. C'est une, à mon avis, anticipation, parce que pour faire quatre pas, il faut commencer par les premiers pas. Mais à mon avis, c'est très tôt de dire que c'est une évolution, parce que au même moment qu'il y a eu cette rencontre, on ne sait pas ce que les M23 est en train effectivement de tramer pour essayer de monter les enchères. Mais en même temps, on ne sait pas ce que le gouvernement congolais essaye de préparer en coulisses. Mais lorsqu'on regarde la situation de statu quo sur les terrains, on a comme l'impression que le est pas vers une résolution politique de la crise semble être, à mon avis, franchi.
Vous restez en ligne, professeur Moïsi. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
Je suis Alex Eko de Kinshasa. Le contexte de guerre du Kivu est très complexe. À mon avis, les gouvernements congolais successifs ont toujours fait preuve de volonté de paix à l'égard non seulement du Rwanda, mais de tous les groupes armés qui lui sont affiliés. Toutefois, les acteurs au conflit dans leurs propos semblent confirmer la tendance au retrait du M23 des zones occupées, telle que demandée par les pays de l'Afrique de l'Est. Par ailleurs, on ne sait pas s'il s'agissait de négocier secrètement avec le M23 ou bien des modalités de retrait. Pourquoi les officiers FARDC ont-ils accepté de prendre part à une telle rencontre? Les jours à venir, nous le dirons.
Professeur Moïsi, brève réaction.
Oui, je partage le point de vue de l'auditeur. C'est qu'en fait, la crise que le Congo est en train de connaître, c'est une crise complexe qui comporte plusieurs éléments et d'où il faut que les solutions soit à géométrie variable, que les solutions soient en fait étendues sur chacun de ces aspects, parce qu'il y a les revendications des groupes armés locaux, et ça fait débat au niveau de Nairobi, mais par rapport à ce qui se passe, c'est que le fait que les officiels congolais aillent parler aux représentants à l'approche politique du M23, le fait qu'on semble partager l'idée des retraits du M23, je crois que derrière tous ces vocabulaires, à mon avis, il semble se dégager une certaine logique qui n'est pas encore officielle, celle de pouvoir parler un jour d'une question ou d'une autre. Mais le problème, à ce moment-là, il faut absolument que le gouvernement définisse clairement un plan de résolution des crises pour que, effectivement, les actions disparates ne soient pas de nature, disons, aillent dans une cohérence, dans une politique cohérente des résolutions de la crise de l'Est, de la RDC.
Timothée Tchaombo, on va prendre aussi pour vous ce dernier auditeur qui nous appelle de Bukavu au sud Kivu.
Jacques Biaounda, depuis la ville de Bukavu au sud Kivu, le gouvernement congolais tombe déjà dans le piège de l'ennemi. L'M23 a été déclaré comme un mouvement terroriste par Kinshasa. Amorcer une quelconque négociation avec ce groupe sera considéré comme un acte de haute trahison, étant donné que même les soi-disantes forces de l'EAC étaient appelées pour combattre et éradiquer ces forces négatives dont l'M23 fait partie. Il est surprenant de constater que l'EAC veut créer un pont entre le gouvernement et ces terroristes. Ceci prouve à suffisance que même l'EAC est complice déjà de la situation de l'Est. Il est donc le temps de se prendre en charge pour trouver une solution à la situation de l'Est.
Timothée Tchaombo.
Oui, cet auditeur confirme les propos que j'ai tenus le 2 décembre 2022 dans sur vos antennes ici, où j'ai dit et j'ai réitéré ceci pour dire que le gouvernement s'était tiré une balle au pied, mais c'est au gouvernement de venir expliquer par un point de presse comment il a accepté que nos officiers supérieurs aillent négocier, parler, dialoguer avec un mouvement terroriste sur invitation de ces mouvements terroristes. Le professeur Moïsi avait parlé d'un plan de sortie de crise qui devait être défini. Je l'ai dit le 2 décembre, un plan à court, moyen, moyen et long terme, parce que le retrait de ces groupes, que ce soit M23 comme tous les autres, même s'ils se retirent, même s'ils déposent les armes, le processus va prendre, connaîtra des activités à court terme, des activités à moyen terme et des activités à long terme. Mais Madame Kelly, n'oubliez pas qu'il va y arriver un moment où le gouvernement ne saura plus faire le rétro-pédalage. C'est-à-dire qu'au-delà de l'option diplomatique, les chefs d'État et les institutions régionales sont impliqués, au-delà de l'option militaire, parce que les contingents sont là et puis les phares d'essai sont toujours dans les positions, en alerte maximale, en position de guerre, et l'option politique, parce que les négociations, les pré-négociations ont commencé. Il ne faut pas oublier que l'État congolais a dépêché à la Cour pénale internationale, Madame ministre Mutombo, pour déposer plainte sur les crimes commis par le M23. Et je rappelle qu'il n'y a pas que ces crimes. Le M23 a commis beaucoup de crimes dans les différents territoires qu'il a occupés. Et que donc, à un moment donné, il y a un aspect qui vient de s'ajouter, c'est la question judiciaire. Et que donc, à un moment donné, opter pour des négociations alors qu'il y a des crimes et que l'État congolais, dans l'organisation de compétences judiciaires, il y a des crimes que l'État congolais ne sera pas amnistié. Que donc ça relève de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, que le gouvernement n'a pas de compétences du point de vue de nos lois d'amnistier. Et que donc il ne faut pas que l'on prenne la crise du Kivu, la situation du M23. Chaque fois le M23 sert un peu de levier politique, électoral, etc. C'est à chaque fois qu'on vient faire recours au M23 pour obtenir des prolongations, on revient au M23 pour obtenir des négociations et ceci. Moi je ne crois pas qu'on doit marchander avec le sang des Congolais. C'est un mouvement terroriste, point barre. On l'écrase parce que quand on dit que bon, on accepte que le M23 puisse se replier dans les positions qu'il occupait avant, ces positions-là sont dans les territoires congolais qu'un mouvement négatif armé, terroriste ou pas, ne doit pas occuper. C'est cela, je rappelle au professeur qui intervenait avant. Donc on ne peut pas ici avoir une attitude ambivalente sur une même question dont on a pris des résolutions même à l'Assemblée nationale. Donc l'aspect judiciaire qui vient s'ajouter dans la démarche du gouvernement l'oblige d'aller jusqu'au bout avec la logique. Parce qu'à ce moment-là, les Congolais comprendront qu'il s'agit de mascarades, de saupoudrage. Mais je ne vois pas ici le président de la République remercier un Parlement, initier une enquête qui va aller inviter la Cour pénale internationale et venir blaguer, accepter d'aller sur autour de la table de négociation avec le M23. Et en même temps, si la menace reste la même et que Paul Kagame, comme Museveni, reste des menaces qui veulent étendre leurs zones d'influence, qui ont leurs zones d'influence dans les Kivu, restent dans leurs ambitions expansionnistes, je crois qu'il faut que le gouvernement congolais puisse activer fortement la diplomatie afin que le chef de l'État puisse convoquer, par exemple, tous ses ambassadeurs à Kinshasa, leur donner la plus grande ligne de conduite, pour que chaque État qui est membre de la RDC puisse condamner le Rwanda et l'Ouganda dans le soutien des groupes armés dans les Kivu. Ça, c'est aussi une forme de pression. Pourquoi pas suspendre notre participation à la francophonie? Donc, ce sont des éléments importants dans la résolution de ces conflits, madame.
Professeur Chobert Aguenunga, nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kisangani, Université catholique du Congo, spécialiste dans les domaines des études des sécurités, des géopolitiques et des sociologies militaires. Vous êtes aussi chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo. Professeur, on constate que la force régionale de l'EAC privilégie plutôt le processus politique avant d'envisager l'option purement militaire. Vous, en tant qu'expert, analyste, pensez-vous que c'est la bonne option choisie par l'EAC pour résoudre cette crise dans l'est de la RDC?
Moi, je pense que c'est la démarche initiale qui était lourdement boiteuse, le fait que le gouvernement congolais puisse solliciter l'intervention de l'EAC. Et tout ce que le gouvernement congolais devrait faire, c'est plutôt d'ignorer l'EAC, même si l'EAC pouvait faire quelque chose, mais c'est pas en remplacement du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais doit tout simplement s'assumer. Je pense que il est plus que jamais important qu'il y ait une montée en puissance de FADC pour, évidemment, démanteler ce que le gouvernement congolais lui-même appelle un groupe terroriste. Mais aussi, je pense que cette guerre doit se jouer sur le front diplomatique. Je le rappelais tantôt, il est clairement connu que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, il ne faut pas se valer la face. Il faut obtenir des pressions diplomatiques sur le plan international pour que le Rwanda puisse retirer ses soutiens. Par ailleurs, il faut également qu'il y ait des sanctions Tout le monde sait que il y a l'embargo des Nations Unies sur les armes, sur les groupes armés. Et à ce titre, tous les pays qui transfèrent des armes aux groupes armés doivent être sanctionnés. Et dans le cas sous examen, c'est le Rwanda qui doit être sanctionné. Et la dernière option, c'est l'option judiciaire. Je pense que le moment est venu maintenant pour que des poursuites soient immédiatement engagées contre tous ceux qui ont participé de près ou de loin au crime que le M23 a commis dans les zones anti-l'occupe. Je pense que la combinaison de ces trois approches pourrait immédiatement mettre un terme à la crise sécuritaire causée par le M23, mais aussi longtemps que la République démocratique du Congo pense que la solution va venir de l'EAC. Je pense que l'EAC ne va pas apporter une solution immédiate, une solution efficace. Il faut que la RDC puisse tout simplement repenser ses approches de ce point de vue pour espérer ramener la paix dans cette partie du territoire qui n'a que trop souffert en-delà de la guerre.
Merci, professeur Chobert Aguenunga, professeur Augustin Mouessi, professeur de sciences politiques à l'Université de Goma et Université catholique Graben de Butembo. Dans leur communiqué, le M23 dit attendre une nouvelle rencontre avec les FRDC, mais du côté des FRDC, on dit qu'il n'y aura plus ce genre de rencontre et qu'il ne s'agit nullement des négociations entre les FRDC et le M23. Comment peut-on qualifier cette rencontre?
Oui, je pense que c'est une rencontre qui a permis effectivement d'agiter un peu les émotions, de déranger un peu les calculs, mais je pense que c'est la loi du processus de la résolution du conflit qui va nous dire finalement si ça sera la dernière rencontre ou la première. Encore faut-il s'interroger s'il n'y a pas d'autres rencontres, s'il n'y aurait pas d'autres rencontres secrètes. Mais par rapport justement à s'interroger sur la probabilité d'une rencontre ou d'autres rencontres, je crois que ce qui est important pour la RDC pour le moment, il serait important que la RDC quitte en fait la logique des discours, de la gestion des émotions, pour véritablement mettre en place une cellule de la gestion des crises qui définira en fait les priorités, n'est-ce pas, qu'il faut pouvoir envisager, mais aussi la série d'actions qu'il faut pouvoir entreprendre. Parce que il faut éviter, n'est-ce pas, une sorte d'action sans boussole où on va au sommet, mais en même temps on tient un discours qui ne semble pas être cohérent. Je crois qu'en faisant ce travail de coordination, des gestions rationnelles, cela permettrait à notre pays de pouvoir effectivement bien se comporter quant à la gestion de cette crise.
Merci, professeur Mouessi. Timothée Tchaombo-Soutcha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Comment vous entrevoyez la suite des événements?
Mais la suite des événements dépendra des rapports de force sur le terrain. D'une part, le M23 avec ses soutiens régionaux, notamment le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi du gouvernement congolais qui a l'obligation de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons au-delà des trois options, la quatrième option, c'est l'option judiciaire. Dans l'option judiciaire, il y a les crimes qui peuvent être jugés par les instances, les institutions congolaises, mais aussi il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis par le M23 comme commis par d'autres groupes armés. Il n'y a pas que le M23 qui a commis des crimes et des exactions sur les populations. Il y a beaucoup de crimes qui sont dans les Kivu et c'est pour ça qu'il faut que l'on invite la Cour pénale internationale à la fois pour les crimes récents commis par le M23, mais également à court, moyen, long terme. Il faut qu'on ait la Cour pénale internationale à long terme sur le territoire congolais, parce qu'il faudrait un travail de justice transitionnelle, conserver, chercher, exhumer des corps, conserver les preuves, traduire, trouver les ADN, avoir une banque de données et traduire les auteurs devant des cours de tribunaux. Je rappelle à tous qui s'amusent à dire que ceci n'est pas un dialogue, de ne pas jouer aux mots, parce que ceux qui sont partis rencontrer le M23 sous la demande du M23 ne viennent pas de la société civile. Ce sont des animateurs des institutions de l'État, les officiers supérieurs de FARDC, les délégués des mécanismes conjoints régionaux, mais aussi ceux des États de l'Afrique de l'Est. Donc, faut pas se jouer avec des mots face à une crise qui n'a que trop duré et qui fait couler de fleuves de sang.
Merci,
donc, tout dépend
Timothée.
Des leviers du gouvernement congolais.
Merci Timothée Tshaombo. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté et Donna Madimba qui est à la réalisation. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.